Edmond Abou, la mère de la marquise. Ceci est une vieille histoire qui datera tantôt de 10 ans. Le 15 avril 1846, on lisait dans tous les grands journaux de Paris l'annonce suivante. Un jeune homme de bonne famille, ancien élève d'une école du gouvernement, ayant étudié 10 ans les mines, la fonte, la forge, la comptabilité et l'exploitation des coupes de bois, désirait trouver dans sa spécialité un emploi honorable. Écrire à Paris, poste restante, à MLDDO. La propriétaire des belles forges d'Arange, Madame Benoît, était alors à Paris dans son petit hôtel de la rue Saint-Dominique. Mais elle ne lisait jamais les journaux. Pourquoi les aurait-elle lus? Elle ne cherchait pas un employé pour sa forge, mais un mari pour sa fille. Madame Benoît, dont l'humeur et la figure ont bien changé depuis 10 ans, était en ce temps-là une personne tout à fait aimable. Elle jouissait délicieusement de cette seconde jeunesse que la nature n'accorde pas à toutes les femmes et qui s'étend entre la quarantaine et la 50e année. Son embonpoint un peu majestueux lui donnait l'aspect d'une fleur très épanouie, mais personne en la voyant ne songeait à une fleur fanée. Ses petits yeux étincelants, du même feu qu'à 20 ans, ses cheveux n'avaient pas blanchi, ses dents ne s'étaient pas allongées, ses joues et ses mentons resplendissaient de cette fraîcheur vigoureuse, luisante et sans duvet, qui distingue la seconde jeunesse de la première. Ses bras et ses épaules auraient fait encore envie à beaucoup de jeunes femmes. Son pied s'était un peu écrasé sous le poids de son corps, mais sa petite main rose et potelée brillait encore au milieu des bagues et des bracelets comme un bijou entre des bijoux. Les dedans d'une personne si accomplie répondaient exactement au dehors. L'esprit de Madame Benoît était aussi vif que ses yeux. Sa figure n'était pas plus épanouie que son caractère. Le rire ne tarissait jamais sur cette jolie bouche. Ses petites, belles petites mains étaient toujours ouvertes pour donner. Son âme semblait faite de bonne humeur et de bonne volonté. À ceux qui s'émerveillaient d'une gaieté si soutenue et d'une bienveillance si universelle, Madame Benoît répondait « Que voulez-vous? Je suis née heureuse. Mon passé ne renferme rien que d'agréable, sauf quelques heures oubliées depuis longtemps. Le présent est comme un ciel sans nuages. Quant à l'avenir, j'en suis sûr que je le tiens. Vous voyez bien qu'il faudrait être folle pour se plaindre du sort ou prendre en grippe le genre humain. » Comme il n'est rien de parfait en ce monde, Madame Benoît avait un défaut, mais un défaut innocent, qui n'avait jamais fait de mal qu'à elle-même. Elle était, quoique l'ambition semble un privilège du sexe laid, passionnément ambitieuse. Ah, je regrette de n'avoir pas trouvé un autre mot pour exprimer son seul travers. Car à vrai dire, l'ambition de Madame Benoît n'avait rien de commun avec celle des autres hommes. Elle ne visait ni à la fortune ni aux honneurs. Les forges d'Arlange rapportaient assez régulièrement 150 000 francs de rente. Et quant au reste, Madame Benoît n'était pas femme à rien accepter du gouvernement de 1846. Alors que poursuivait-elle donc? Bien peu de choses. Si peu que vous ne me comprendriez pas si je ne reconnais d'abord en quelques lignes la jeunesse de Madame Benoît, née Lopineau. Gabriel Auguste Eliane Lopineau naquit au cœur du faubourg Saint-Germain sur les bords de ce bienheureux ruisseau de la rue du Bac que Madame de Staël préférait à tous les fleuves de l'Europe. Ses parents, bourgeois jusqu'au menton, vendaient des nouveautés à l'enseigne du Bon Saint-Louis et accumulaient sans bruit une fortune colossale. Leurs principes bien connus, leur enthousiasme pour la monarchie et le respect qu'ils affichaient pour la noblesse leur conservaient la clientèle de tout le faubourg. M. Lopineau, en fournisseur bien appris, n'envoyait jamais une note qu'on ne la lui demandait. On n'a jamais ouï dire qu'il eût appelé en justice un débiteur récalcitrant. Aussi les descendants des croisés firent-ils souvent banqueroute au bon Saint-Louis, mais ceux qui payent, payent pour les autres. Cet estimable marchand, entouré de personnes illustres, dont les unes le volaient et dont les autres se laissaient voler, arriva peu à peu à mépriser uniformément sa noble clientèle. On le voyait très humble et très respectueux au magasin, mais il se relevait comme par ressort en rentrant chez lui. Il étonnait sa femme et sa fille par la liberté de ses jugements et l'audace de ses maximes. Peu s'en fallait que Madame Lopineau se signât dévotement lorsqu'elle l'entendait dire après boire « J'aime fort les marquis et me semble genre de bien, mais aucun prix je voudrais d'un marquis pour gendre. » Ce n'était pas le comte de Gabriel Auguste Eliane. Elle se fut fort accommodée d'un marquis. Et puisque chacun de nous doit jouer un rôle en ce monde, elle donnait la préférence au rôle de marquise. Cet enfant, accoutumé à voir passer les calèches comme les petits paysans à voir voler les hirondelles, avait vécu dans un perpétuel éblouissement. Portée à l'engouement, comme toutes les jeunes filles, elle avait admiré les objets qui l'entouraient, hôtels, chevaux, toilettes et livrées. À 12 ans, un grand nom exerçait une sorte de fascination sur son oreille. À 15, elle se sentait prise d'un profond respect pour ce qu'on appelle le faubourg Saint-Germain, c'est-à-dire pour cette aristocratie incomparable qui se croit supérieure à tout le genre humain par droit de naissance. Et lorsqu'elle fut en âge de se marier, la première idée qui lui vint, c'est qu'un coup de fortune pouvait la faire entrer dans ces hôtels dont elle contemplait la porte cochère, l'asseoir à côté de ces grandes dames radieuses qu'elle n'osait regarder en face, la mêler à ces conversations qu'elle croyait plus spirituelles que les plus beaux livres et plus intéressantes que les meilleurs romans. Après tout, pensait-elle, il ne faut pas un grand miracle pour abaisser devant moi la barrière infranchissable. C'est assez que ma figure ou ma dot fasse la conquête d'un comte, d'un duc ou d'un marquis. Son ambition visait surtout au marquisat, et pour cause. Il y a des ducs et des comtes de création récente et qui ne sont pas reçus au faubourg, tandis que tous les marquis, sans exception, sont de la vieille roche, car depuis Molière, on n'en fait plus. Je suppose que si elle avait été livrée à elle-même, elle aurait trouvé, sans lanterne, l'homme qu'elle souhaitait pour mari. Mais elle vivait sous l'aile de sa mère, dans une solitude profonde, où M. Lopineau venait de temps en temps lui offrir la main de son avoué d'un notaire ou d'un agent de change. Elle refusa dédaigneusement tous les partis jusqu'en 1829. Mais un beau matin, elle s'aperçut qu'elle avait 25 ans sonnés et elle épousa subitement M. Morel, maître de forge à Arlange. C'était un homme excellent de roturier qu'elle aurait aimé comme un marquis si elle avait eu le temps. Mais il mourut le 31 juillet 1830, 6 mois après la naissance de sa fille. La belle veuve fut tellement outrée de la révolution de juillet qu'elle en oublia presque de pleurer son mari. Les embarras de la succession et le soin des forges la retardent à Arlange jusqu'au choléra de 1832, qui lui enleva quelques jours son père et sa mère. Elle revint alors à Paris, vendit le bon Saint-Louis et acheta son hôtel de la rue Saint-Dominique entre le comte de Preux et la maréchale de Lens. Elle s'établit avec sa fille dans son nouveau domicile, et ce n'est pas sans une joie secrète qu'elle se vit loger dans un hôtel de noble apparence entre un comte et une maréchale. Son mobilier était plus riche que le mobilier de ses voisins, sa serre plus grande, ses chevaux de meilleure race et ses voitures mieux suspendues. Cependant, elle aurait donné de bon cœur serre, mobilier, chevaux et voitures pour avoir le droit de voisiner un brin. Les murs de son jardin n'avaient pas plus de 4 mètres de haut, et dans les soirées tranquilles de l'été, Elle entendait causer, tantôt chez le comte, tantôt chez la maréchale. Malheureusement, il ne lui était pas permis de prendre part à la conversation. Un matin, son jardinier lui apporta un vieux cacabotores qu'il avait pris sur un arbre. Elle rougit de plaisir en reconnaissant le perroquet de la maréchale. Elle ne voulut céder à personne le plaisir de rendre ce bel oiseau à sa maîtresse, et au risque d'avoir les mains déchiquetées à coups de bec, elle le reporta elle-même. Mais elle fut reçue par un gros intendant qui la remercia dignement sur le pas de la porte. Quelques jours après, les enfants du comte de Preux envoyèrent dans ses plates-bandes un ballon tout neuf. La crainte d'être remerciée par un intendant fit qu'elle renvoya le ballon à la comtesse par un de ses domestiques, avec une lettre fort spirituelle et de la tournure la plus aristocratique. Ce fut le précepteur des enfants, un vrai cuistre, qui lui répondit. La jolie veuve, oh, elle était alors dans le plein de sa beauté, en fut boursée d'avance. Elle se disait quelquefois le soir en rentrant chez elle. Oh, le sort est bien ridicule. J'ai le droit d'entrer tant que je veux au numéro 57. Il ne m'est pas permis de m'introduire pour un quart d'heure au 59, au 55. Ses seules connaissances dans le monde du faubourg étaient quelques débiteurs de son père auxquels elle avait garde de demander de l'argent. La récompense de sa discrétion, ces honorables personnes la recevaient quelquefois le matin. À midi, elle pouvait se déshabiller, toutes ses visites étaient faites. Le régisseur de la forge l'arracha à cette vie intolérable en la rappelant à ses affaires. Arrivée à Arlange, elle y trouva ce qu'elle avait cherché vainement dans tout Paris, la clé du faubourg Saint-Germain. Un de ses voisins de campagne hébergeait depuis 3 mois Monsieur le marquis de Kerpry, capitaine au 2e régiment de dragons. Le marquis était un homme de 40 ans, mauvais officier, bon vivant, toujours vert, assuré contre la vieillesse, et célèbre par ses dettes, ses duels et ses fredaines. Du reste, riche de sa solde, c'est-à-dire excessivement pauvre, je tiens mon marquisat, pensa la belle Eliane. Elle fit sa cour au marquis, et le marquis ne lui tint pas rigueur. 2 mois plus tard, il envoya sa démission au ministère de la guerre et conduisait à l'église la veuve de M. Morel. Conformément à la loi, le mariage fut affiché dans la commune d'Arlange, au 10e arrondissement de Paris et dans la dernière garnison du capitaine. L'acte de naissance du marié, rédigé sous la terreur, ne portait que le nom vulgaire de Benoît, mais on y joignit un acte de notoriété publique attestant que, de mémoire d'homme, M. Benoît était connu comme marquis de Kerpry. La nouvelle marquise commença par ouvrir ses salons au faubourg Saint-Germain du voisinage, car le faubourg s'étend jusqu'aux frontières de la France. Après avoir ébloui de son luxe tous les hobereaux des environs, elle voulut aller à Paris prendre sa revanche sur le passé, et elle conta ce projet à son mari. Le capitaine fronça le sourcil et déclara net qu'il se trouvait très bien à Arlange. La cave était bonne, la cuisine de son goût, la chasse magnifique, puis ne demandait rien de plus. Le faubourg Saint-Germain était pour lui un pays aussi nouveau que l'Amérique. Il n'y possédait ni parents, ni amis, ni connaissances. Bonté divine! S'écria la pauvre Eliane. Faut-il que je sois tombée sur le seul marquis de la terre qui ne connaisse pas le faubourg Saint-Germain? Ce ne fut pas son seul mécompte. Elle s'aperçut bientôt que son mari prenait l'absinthe 4 fois par jour, sans parler d'une autre liqueur appelée vermouth qu'il avait fait venir de Paris pour son usage personnel. La raison du capitaine ne résistait pas toujours à ces libations répétées, et lorsqu'il sortait de son bon sens, c'était le plus souvent pour entrer en fureur. Ses vivacités n'épargnaient personne, pas même Eliane, qui en vint à souhaiter tout de bon de n'être plus marquise. Et cet événement arriva plus tôt qu'elle ne l'espérait. Un jour, le capitaine étant souffrant, pour s'être trop bien comporté la veille, avait la tête lourde et les yeux battus. Assis dans le plus grand fauteuil du salon, il lustrait mélancoliquement ses longues moustaches rousses. Sa femme, debout auprès d'un samovar, y versait coup sur coup d'énormes tasses de thé. La domestique annonça M. le comte de Kerpri. Le capitaine, tout malade qu'il était, se dressa brusquement en pied. « Mais ne m'avez-vous pas dit que vous étiez sans parents ?» demanda Eliane, un peu étonnée. « Mais je m'en connaissais pas, répondit le capitaine. « Et je veux que le diable m'emporte, mais nous verrons bien, faites entrer. » Le capitaine sourit dédaigneusement lorsqu'il vit paraître un jeune homme de 20 ans, d'une beauté presque enfantine. Il était de taille raisonnable, mais si frêle et si délicat qu'on pouvait croire qu'il n'avait pas fini de grandir. Ses longs yeux bleus regardaient autour de lui avec une sorte de timidité farouche. Lorsqu'il aperçut la belle Eliane, sa figure rougit comme une pêche d'espalier. Le timbre de sa voix était doux, frais, limpide, presque féminin. Sans la moustache brune qui se dessinait finement sur sa lèvre, on aurait pu le prendre pour une jeune fille déguisée en homme. « Monsieur, dit-il au capitaine en se tournant à demi vers Eliane, quoique je n'ai pas l'honneur d'être connu de vous, je viens vous parler d'affaires de famille. Notre conversation, qui sera longue, contiendra sans doute des chapitres fastidieux. Je crains que madame n'en soit ennuyée. Bon, vous avez tort de craindre, monsieur, reprit Eliane en se rengorgeant. La marquise de Kerpri veut et doit connaître toutes les affaires de la famille, et puisque vous êtes un parent de mon mari. Non, mais c'est ce que j'ignore encore, madame, mais nous le déciderons bientôt, et devant vous, puisque vous le désirez et que monsieur semble y consentir. Le capitaine écoutait d'un air hébété, sans trop comprendre. Le jeune comte se tourna vers lui comme pour le prendre à partie. « Monsieur, lui dit-il, je suis le fils aîné du marquis de Kerpri, qui est connu de tout le faubourg Saint-Germain et qui a son hôtel rue Saint-Dominique. »« Oh, quel bonheur !» s'écria étourdiment Eliane. Le comte répondit à cette exclamation par un salut froid et cérémonieux. Il poursuivit. « Monsieur, comme mon père, mon grand-père et mon bisaïeul étaient fils uniques, et qu'il n'a jamais eu deux branches dans la famille, vous excuserez l'étonnement qui nous a saisis le jour où nous avons appris par les journaux le mariage d'un marquis de Kerpri. Mais je n'avais donc pas le droit de me marier ?» demanda le capitaine en se frottant les yeux. « Je ne dis pas cela, monsieur. Nous avons dans la maison, outre l'arbre généalogique de la famille, tous les papiers qui établissent nos droits à porter le nom de Kerpri. Si vous êtes notre parent, comme je le désire, je ne doute pas que vous n'ayez aussi entre les mains quelques papiers de famille. « Bon, quoi bon, ces paperasses ne prouvent rien, et tout le monde sait qui je suis. » « Ah oui, vous avez raison, monsieur, il ne faut pas beaucoup de parchemins pour établir une preuve solide. Il suffit d'un acte de naissance avec... « Monsieur, mon acte de naissance porte le nom de Benoît. Il est daté de 1794, comprenez-vous ?»« Parfaitement, monsieur, et en dépit de cette circonstance, je conserve l'espoir d'être votre parent. Êtes-vous né à Kerpri ou dans les environs ?» « Kerpri, Kerpri, mais où prenez-vous Kerpri ?»« Mais où il a toujours été, à 3 lieues de Dijon, sur la route de Paris. »« monsieur, que m'importe à moi, puisque Robespierre a vendu les biens de la famille. »« Ah non, on vous a mal informé, monsieur. Il est vrai que la terre et le château ont été mis en vente comme biens d'émigrés, mais ils n'ont pas trouvé d'acheteur. » Et Sa Majesté le roi Louis XVIII a daigné les rendre à mon père. » Le capitaine était insensiblement sorti de sa torpeur, et ce dernier trait acheva de le réveiller. Il marcha, les poings serrés, vers son frêle adversaire, et lui cria dans le visage. « Bon petit monsieur, il y a 40 ans que je suis marquis de Kerpris, et celui qui m'arrachera mon or a le poignet solide. » Là-dessus, le comte fit une pirouette, salua profondément la prétendue marquise et regarda sa chaise de poste avant que le capitaine eût songé à le retenir. Le comte pâlit de colère, mais il se souvint de la présence des lianes qui s'étendaient anéanties sur une chaise longue. Et il répondit d'un ton dégagé, « Mon grand monsieur, quoique les jugements de Dieu soient passés de mode, j'accepterais volontiers le moyen de conciliation que vous m'offrez si j'étais seul intéressé dans l'affaire. Mais je représente ici mon père, mes frères et toute une famille qui aurait lieu de se plaindre si je jouais ses intérêts à pile ou face. Permettez-moi donc de retourner à Paris. Les tribunaux décideront lequel de nous usurpe le nom de l'autre. » Là-dessus, le comte fit une pirouette, salua profondément la prétendue marquise et regagna sa chaise de poste avant que le capitaine eût songé à le retenir. Le samovar ne bouillait plus, mais ce n'était pas de thé qu'il s'agissait entre le capitaine et sa femme. Eliane voulait savoir s'il était oui ou non marquise de Kerpris. L'impétueux Benoît, qui venait d'user son reste de patience, s'oublia au point de battre la plus jolie personne du département. Mais c'est à ces circonstances que Madame Benoît faisait allusion lorsqu'elle parlait de quelques heures désagréables, oubliées depuis longtemps. Le procès Kerpris contre Kerpris ne se fit pas attendre. Monsieur Benoît eut beau répéter par l'organe de son avocat qu'il était toujours entendu appeler marquis de Kerpris, il fut condamné à signer Benoît et à payer les frais. Le jour où il reçut cette nouvelle, il écrivit au jeune comte une lettre d'injure grossière signée Benoît. Le dimanche suivant, vers 8 heures du matin, il rentra chez lui sur un brancard avec 10 centimètres de fer dans le corps. Il s'était battu et l'épée du comte s'était brisée dans la blessure. Eliane, qui dormait encore, arriva juste à temps pour recevoir ses excuses et ses adieux. Si cette aventure n'avait pas fait un scandale épouvantable, la province ne serait pas la province. Les hobereaux du voisinage témoignèrent une exaspération comique. Ils auraient voulu reprendre à la fausse marquise les sites qu'ils lui avaient faits. La veuve n'entendit pas le bruit qui se faisait autour d'elle. Elle pleurait. Ce n'est pas qu'elle regretta rien de M. Benoît, dont les défauts petits et grands l'avaient à peine corrigé du mariage, mais elle déplorait sa confiance trompée, ses espérances perdues, son horizon rétréci, son ambition condamnée à l'impuissance. Si vous voulez vous peindre l'état de son âme, figurez-vous un fakir à qui l'on signifie qu'il ne verra jamais Vishnu. Du fond de sa retraite, elle lançait sur le faubourg Saint-Germain des regards d'Ève chassés du paradis terrestre. Un matin, qu'elle pleurait sous un berceau de clématites en fleurs, c'était dans l'été de 1834, sa fille passa en courant auprès d'elle. Elle arrêta l'enfant par sa robe et la baisa 5 ou 6 fois en se reprochant de songer moins à sa fille qu'à ses chagrins. Lorsqu'elle l'eut bien embrassée, elle la regarda en face et fut satisfaite de l'examen. À 4 ans et demi, la petite Lucille annonçait une beauté fine et aristocratique. Ses traits étaient charmants, les attaches des pieds et des mains exquises. Eliane eut beau fouiller dans sa mémoire, elle ne se souvint pas d'avoir vu jouer aux Tuileries un seul enfant d'un type aussi distingué. Elle donna un dernier baiser à la petite qui prit sa volée. Puis elle s'essuya les yeux et depuis elle ne pleura plus. « Mais où donc avais-je la tête ? » murmura-t-elle en reprenant son plus heureux sourire. « Mais tout n'est pas perdu, tout peut s'arranger. » Tout est arrangé, c'est bien, c'est pour le mieux. J'entrerai. Oh, c'est une affaire de patience. Il faut du temps, mais ces portes orgueilleuses s'ouvriront devant moi. Je ne serai pas marquise, non. J'ai été assez marié et l'on ne m'y reprendra plus. La marquise, la voilà qui piétine dans les fraises. Bon, non, je vais choisir un marquis, un bon. Il faut bien que mon expérience serve à quelque chose. Je serai la vraie mère d'une vraie marquise. Elle sera reçue partout, et moi aussi, fêtée partout, et moi aussi. Elle dansera avec des ducs, et moi, je la regarderai danser, à moins que ces messieurs de 1830 ne fassent une loi de lasser maman au vestiaire. Et dès cet instant, son unique préoccupation fut de préparer sa fille au rôle de marquise. Elle l'habilla comme une poupée, lui enseigna les diverses grimaces dont se composent les grandes manières, et lui apprit la révérence, tandis que sa gouvernante lui apprenait l'alphabet. Malheureusement, la petite Lucille n'était pas née dans la rue du Bac. Elle s'éveillait au chant des oiseaux et non au roulement des carrosses. Elle voyait plus de villageois en blouse que de laquais en livrée. Elle n'écouta pas mieux les leçons d'aristocratie que lui donnait sa mère, que sa mère n'avait écouté les diatribes de M. Lopineau contre les marquis. L'esprit des enfants est formé par tout ce qui les entoure. Ils ont l'oreille ouverte à 100 précepteurs à la fois. Les bruits de la campagne, les bruits de la rue leur parlent bien plus haut que le pédant le plus intraitable ou le père le plus rigoureux. Et Mme Benoît eut beau prêcher, les premiers plaisirs de la jeune marquise furent de se battre avec les fillettes du village, de se rouler dans le sable en robe neuve, de voler des œufs tout chauds dans le poulailler et de se faire traîner par un gros chien écossais qu'elle tirait par la queue. À la voir jouer au jardin, l'observateur attentif eut deviné le sang du bonhomme Morel et du père Lopineau. Sa mère se lamentait de ne trouver en elle ni orgueil, ni vanité, ni le plus simple mouvement de coquetterie. Elle guettait avec une impatience fiévreuse le jour où Lucille mépriserait quelqu'un, mais Lucille ouvrait son cœur et ses bras à toutes les bonnes gens qui l'entouraient, depuis Margot la vachère jusqu'au plus noir des ouvriers de la forge. Lorsqu'elle se fit grandelette, ses goûts changèrent un peu, mais ce ne fut pas dans le sens que sa mère désirait. Elle s'intéressa au jardin, au verger, au troupeau, à la basse-cour, à l'usine, au ménage et même, pourquoi ne le dirait-on pas, à la cuisine. Elle eut l'œil au fruitier, elle étudia l'art de faire des confitures, elle s'inquiéta de la pâtisserie. Chose étrange, les gens de la maison, au lieu de s'impatienter de sa surveillance, lui en savaient le meilleur gré du monde. Il comprenait mieux que Madame Benoît combien il est beau qu'une femme apprenne le bonheur, l'ordre, le soin, une sage et libérale économie. Et c'est à l'ange obscur qui font le charme d'une maison et la joie des autres auxquels elle ouvre sa porte. Les leçons de Madame Benoît avaient porté d'étranges fruits. Cependant, elles ne furent pas tout à fait perdues. L'institutrice était sévère par amour de sa fille, impatiente par amour du marquisat et colère par tempérament. Et elle perdit si souvent patience que Lucille prit peur de sa mère. La pauvre enfant s'entendait répéter tous les jours « Vous ne savez rien, vous n'entendrez rien à rien. Vous êtes bien heureuse de m'avoir. » Et elle se persuada naïvement qu'elle était bien heureuse d'avoir Madame Benoît. Elle se crut de bonne foi, niaise et incapable, et au lieu de s'en désoler, elle satisfit tous ses goûts, s'abandonna à tous ses penchants, fut heureuse, aimée et charmante. Madame Benoît était si pressée de jouir de la vie et du faubourg qu'elle aurait marié sa fille à 15 ans si elle l'avait pu. Mais Lucille à 15 ans n'était encore qu'une petite fille. L'âge ingrat se prolongea pour elle au-delà des limites ordinaires. Il est à remarquer que les enfants des villages sont moins précoces que ceux des villes. C'est sans doute par la même raison qui fait que les fleurs des champs retardent sur celles des jardins. À 16 ans, Lucille commença de prendre figure. Elle était encore un peu maigre, un peu rubiconde, un peu gauche. Toutefois, sa gaucherie, sa maigreur et ses bras rouges n'étaient pas des épouvantails à effaroucher l'amour. Elle ressemblait à ces chastes statues que les sculpteurs allemands de la Renaissance taillaient dans la pierre des cathédrales, mais aucun fanatique de l'art grec n'eût dédaigné de jouer auprès d'elle le rôle de Pygmalion. Sa mère lui dit un beau matin, en fermant 5 ou 6 malles, « Je vais à Paris chercher un marquis que vous épouserez. »« Oui, maman, » répondit-elle sans objection. Elle savait depuis des années qu'elle devait épouser un marquis. Un seul souci la préoccupait, sans qu'elle eût jamais osé s'en ouvrir à personne. Dans le salon d'une amie de sa mère, Madame Métier, en feuilletant un album de costumes, elle avait vu une gravure coloriée représentant un marquis. C'était un petit vieillard vêtu d'un costume du temps de Louis XV, culotte courte, souliers à boucles d'or, épée à poignée d'acier, chapeau à plumes, habit à paillettes. Et cette image était si bien logée dans un des casiers de sa mémoire qu'elle se présentait au seul nom de marquis, et que la pauvre enfant ne pouvait se persuader qu'il y eût d'autres marquis sur la terre. Elle les croyait tous dessinés d'après le même modèle. Et elle se demandait avec effroi comment elle pourrait s'empêcher de rire en donnant la main à son mari. Tandis qu'elle s'abandonnait à ses terreurs innocentes, Madame Benoît se mettait en quête d'un marquis. Elle eut bientôt trouvé. Parmi les débiteurs de son père avec lesquels elle avait conservé des relations, le plus aimable était le vieux baron de Subressac. Non seulement il y était toujours pour elle, mais il lui faisait même l'honneur de venir déjeuner chez elle en tête à tête. Ses familiarités n'étaient pas compromettantes d'un homme de 75 ans. Elle lui demanda un jour, entre les deux derniers verres d'une bouteille de vin de Tokay, « Monsieur le baron, vous occupez-vous quelquefois de mariage ?»« Oh, jamais, charmante, depuis qu'il y a des maisons pour cela !» Le baron l'appelait paternellement charmante. « Mais, reprit-elle sans se déférer, s'il s'agissait de rendre service à deux de vos amis ?» « Bon, si vous étiez une des deux, madame, je ferais tout ce que vous me demanderiez. »« Eh bien, vous êtes au cœur de la question. Je connais une enfant de 16 ans, jolie, bien élevée, qui n'a jamais été en pension, un ange. Mais au fait, je ne vois pas pourquoi je vous ferais des mystères. C'est ma fille. Elle a pour dot, premièrement, l'hôtel que voici. Oh, je n'en parle que pour mémoire. » Puis une forêt de 400 hectares, puis une forge qui marche toute seule et qui rapporte 150 000 francs dans les plus mauvaises années. Et là-dessus, elle devra me servir une rente de 50 000 francs, qui, joignant quelques petites choses que j'ai, me suffira pour vivre. Nous disons donc un hôtel, une forêt et 100 000 francs de rente. Bon, c'est fort joli. Attendez! Pour des raisons très délicates et qui ne m'est pas permis de divulguer, il faut que ma fille épouse un marquis. On ne demande pas d'argent, on sera très coulant sur l'âge, l'esprit, la figure et tous les avantages extérieurs. Mais ce qu'on veut, c'est un marquis avéré, de bonne souche, bien apparenté, connu de tout le faubourg, et qui puisse se présenter fièrement partout avec sa femme et sa famille. « Connaissez-vous, monsieur le baron, un marquis, que vous aimiez assez pour lui souhaiter une jolie femme et 100 000 livres de rente ?»« Ma foi, charmante, je n'en trouverai pas deux, mais j'en connais un. Si votre fille l'accepte, elle épousera un homme que j'aime comme mon fils. Mais je vous donne beaucoup mieux que vous ne demandez. »«
Vrai ?»«
Oui, d'abord, il est jeune, 28 ans. » « Oh, c'est un détail, passons. Il est très beau, vanité des vanités. Oh, votre fille n'en dira pas autant. Il est plein d'esprit. Oh, de rien inutile au ménage. Une instruction sérieuse, ancien élève de l'école polytechnique. Soit. De plus, il a fait des études spéciales, qui ne vous sont pas. Oh, c'est fort bien, mais mais le solide, monsieur le baron. Oh, quant à la fortune, il répond trop exactement au programme. Ruiné de fond en comble. Il a donné sa démission en sortant de l'école parce que... Mais je lui pardonne, monsieur le baron. Mais la dernière fois qu'il est venu me voir, le pauvre garçon pensait à chercher une place. Mais sa place est toute trouvée, mais dites-moi, cher baron, il est bien noble. Comme Charlemagne. Oh, voilà donc ce que vous appelez le solide. Sans doute. Oui, un de ses ancêtres a failli devenir roi d'Antioche en 1098. Et sa parenté, tout le faubourg. Un nom connu, comme Henri IV, c'est le marquis d'Outreville. Vous devez connaître cela. Mais il me semble, Outreville, c'est un joli nom. On mettra une plaque de marbre au-dessus de la porte cochère, hôtel d'Outreville. Mais va-t-il vouloir de ma fille une mésalliance ? Charmante, un homme ne se mésallie pas. Je comprends qu'une fille qui s'appelle Mademoiselle de Noailles ou Mademoiselle de Choiseul répugne à changer de nom pour s'appeler Madame Mignolet. Mais un homme garde son nom, dont il ne perd rien. D'ailleurs, Gaston n'a pas les préjugés de sa caste. Je le verrai en sortant d'ici, et demain ou plus tard, je vous donnerai de ses nouvelles. Mais faites mieux, mon excellent baron. S'il est bien disposé, venez demain, sans façon, dîner avec lui. A-t-il des papiers de famille, un arbre généalogique? Oh, sans doute. Mais tâchez donc qu'il les apporte. Mais songez-vous, charmante. Mais c'est moi qui viendrai un de ces jours. Vous déchiffrez tout ce grimoire. À bientôt. Le baron s'achemina à petits pas vers le numéro 34 de la rue Saint-Benoît. C'était une maison bourgeoise dont la principale locataire avait meublé quelques chambres pour loger les étudiants. Il monta au second étage et frappa à une petite porte numérotée. Le marquis, en veste de travail, vint lui ouvrir. C'était en effet un beau jeune homme et un mari fort désirable. Il était un peu grand, mais d'une taille si bien prise que personne ne songeait à lui reprocher quelques centimètres de trop. Ses pieds et ses mains attestaient que ses ancêtres avaient vécu sans rien faire pendant plusieurs siècles. Sa tête était magnifique. Un front haut, large et couronné de cheveux noirs, qui se rejetait spontanément en arrière, des yeux bleus d'une grande douceur, mais profondément enfoncés sous des sourcils puissants, un nez fièrement arqué, dont les ailes fines frémissaient à la moindre émotion, une bouche un peu large et des dents charmantes, une moustache noire, épaisse et brillante, qui encadrait de belles lèvres rouges sans les cacher, un teint à la fois brun et rose, couleur de travail et de santé. Le baron fit cet inventaire d'un coup d'œil rapide en serrant la main de Gaston et il murmura en lui-même « Si la petite n'est pas contente du présent que je lui fais !» La figure du jeune marquis était ouverte mais non pas épanouie. En l'examinant avec attention, on y aurait vu je ne sais quoi de mobile et d'inquiet. L'agitation perpétuelle d'un désir inassouvi, la tyrannie d'une idée dominante. Peut-être même, en poussant plus avant, il eut en reconnu le sceau des prédestinations qui marque le visage de tous les inventeurs. Gaston avait quitté son ouvrage pour ouvrir à son vieil ami. Il était occupé à laver à l'encre de Chine une grande planche de dessin au bas duquel on lisait plan, coupe et élévation d'un haut fourneau économique. Sa table était encombrée de dessins et de mémoires dont les titres, à demi cachés les uns par les autres, étaient de nature à piquer la curiosité des plus indifférents. On y voyait, ou plutôt on y devinait, les suscriptions suivantes. D'un nouvel acier plus fusible. Nouveau système de haut fourneau. Accidents les plus fréquents dans les mines. Et moyen de les prévenir. Moyen de couler d'une seule pièce les roues des emplois rationnels du combustible dans nouveau soufflet à vapeur pour les forges. Et lorsqu'on avait jeté les yeux sur cette table, on ne voyait plus qu'elle dans la chambre. Le petit lit de pensionnaire, les 6 chaises de Dame Madeleine, le fauteuil de velours d'Utrecht, la petite bibliothèque surchargée de livres, la pendule arrêtée et les 2 vases de fleurs artificielles sous leur globe, les portraits encadrés de Lafayette et du général Foy, les rideaux rouges à litho jaune, tout disparaissait devant ce monceau de labeur et d'espérance. « Mon enfant, dit le baron au marquis, il y a 8 grands jours que je ne vous ai vu. Où en sont vos affaires ?»« Oh, bonne nouvelle, monsieur, j'ai une place. Oui, j'avais fait mettre il y a quelques jours une note dans les journaux. Un de mes anciens camarades d'école qui dirige les mines de Poulaouen, dans le Finistère, a deviné mon nom sous les initiales. Il a parlé de moi aux administrateurs et l'on m'offre une place de 3 000 francs à prendre au 1er mai. Oh, il était temps. J'entamais mon dernier billet de 100 francs. Je partirai dans 5 jours pour la Bretagne. Poulaouen est un triste pays où il pleut 10 mois de l'année, et vous savez si j'aime le soleil, mais je pourrais continuer mes études, pratiquer quelques-unes de mes théories, faire mes expériences sur une grande échelle. C'est tout un avenir. Oh, voyez comme je tombe mal. Je venais vous proposer autre chose. Je dis toujours, je n'ai pas encore répondu. Voulez-vous vous marier ? Le marquis fit une moue parfaitement sincère. « Oh, vous êtes bien bon de vous occuper de moi, » dit-il au vieillard en lui serrant les 2 mains. « Mais j'ai jamais songé à ces choses-là. Je n'ai pas le temps, vous savez, mes travaux. J'ai encore 1 million de choses à trouver. La science est jalouse. »« Ta, 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 » reprit le baron en riant. « Comment, vous avez 28 ans, vous vivez ici comme un chartreux ? Je viens vous offrir une fille sage, jolie, bien élevée, un ange de 16 ans, et voilà comment vous me recevez. » Un éclair de jeunesse s'alluma au fond des beaux yeux de Gaston, mais ce fut l'affaire d'un instant. « Non, merci 1000 fois, répondit-il, mais j'ai pas le temps. Le mariage m'imposerait des devoirs contraires à mes goûts, des occupations insupportables. Mais vous imposerez rien du tout. Votre futur beau-père est mort depuis plus de 15 ans. La famille se compose d'une belle-mère, excellente bourgeoise, malgré ses prétentions. Pour vous donner une idée de ses manières, je vous dirais qu'elle m'a chargé de vous mener demain dîner chez elle. Et si ce mariage ne vous déplaît pas, vous voyez qu'on ne veut pas de cérémonie. Non, merci, monsieur, mais j'ai Poulaouen dans la tête. « Mais quel homme! On vous assure par contrat la propriété d'un hôtel rue Saint-Dominique, d'une forêt de 400 hectares en Lorraine et de 100 000 livres de rente. Vous en donnera-t-on autant à Poulaouen? Non, mais j'y serai dans mon élément. Proposeriez-vous à un poisson 100 000 francs de rente pour vivre hors de l'eau? Bon, eh bien, n'en parlons plus. Je voulais vous dire cela en passant. Maintenant, j'ai quelques visites à faire et au revoir. Vous ne partirez pas sans me dire adieu. » Le baron s'avança jusqu'à la porte en souriant malicieusement. Et au moment de sortir, il se retourna et dit à Gaston : « À propos, les 100 000 francs de rente sont le revenu d'une forge magnifique. » Gaston l'arrêta sur le seuil. « Une forge ? Oh, j'épouse ! Ah, voulez-vous me permettre d'aller vous prendre demain pour dîner chez ma belle-mère ? Non, 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 épousez Poulaouen. Oh, mon vieil ami. Eh bien, soit, à demain. »